Soyez les bienvenus.
Ist klar, zuerst dieses Entrada und dann können wir Blätter. Genau. Ich glaube, mit Blättern ist alles klar, oder?
Das werden wir jetzt sehen.
Ja.
Bonjour David Mestri.
Bonjour Jean-Luc Reger.
C'est grâce à vous qu'on fait connaissance de ce violon baroque suisse cette semaine et de sa sonorité très spécifique en réalité, vraiment intéressante.
C'est très beau hein, ce qu'on vient d'entendre, oui. Un extrait de répétition. C'est grâce à Christophe Riedo qui était l'un des violonistes qu'on vient d'entendre et le fondateur de cet ensemble Fluidimontes que l'on a pu redécouvrir ce répertoire de musique suisse de l'âge baroque et puis ces violons qui étaient idéaux pour les interpréter puisque fabriqués dans nos contrées.
Comme on a pu se rendre compte lors de ce 8e atelier de musique ancienne de Gruyère, tel qu'il a eu lieu fin août passé, et effectivement une entreprise très originale de construire un violon et de le faire découvrir quand même à une immense majorité de mélomanes. Hein. Je ne suis pas sûr que ce soit un instrument qu'on connaisse vraiment. Peut-être certains en ont d'ailleurs dans leur grenier.
Ah, il faudrait leur demander spécifiquement de contacter les gens qui, les luthiers et spécialistes de ce domaine, puisqu'ils recherchent toujours des instruments. Il y en a une vingtaine dans les musées allemands. Il y en a quelques-uns, on l'a dit, au musée de Genève, au musée de Berne et celui de Bâle, musée d'instruments de musique. Mmh. Et peut-être les greniers ont-ils encore de ces violons que vous figurez bien maintenant avec ces décorations à la manière des meubles de chalet, des petits cœurs, oui. Des petites fleurs, des petites feuilles qui décorent d'une très belle manière la marqueterie donc du violon.
Pourquoi est-il question aujourd'hui, David ?
Eh bien, Christophe Riedo, qui travaille pour l'Université de Fribourg et le Fonds national de la recherche scientifique, va nous parler de ce répertoire baroque, du premier baroque du XVIIe siècle dans notre pays.
On connaît un peu des aspects biographiques. Ça veut dire que en Allemagne, on a fait des recherches sur ces auteurs et on sait un peu d'où ils viennent. Petzl a été actif à Leipzig comme joueur de musique de vent, donc aussi il a joué de la musique dans un groupe de
Stadtmusiker
ou de Stadtmusiker justement
d'une la trompette ou de la ou...
Oui, ou toutes sortes d'instruments de vent, d'une tour où ils ont annoncé l'heure pour tous les citoyens de la ville, comme ça s'est fait en Italie, en Allemagne, un peu partout à l'époque. Et donc, c'est souvent de la musique improvisée, bien sûr. Et donc, le répertoire, il est perdu pour nous aujourd'hui. Mais ces recueils de Petzl nous donnent un peu l'idée de ce répertoire qui a été joué.
Et vous jouez sur les cordes des pages qui sont peut-être destinées aussi au vent, qu'on peut aussi jouer zum Abblasen, comme est inscrit sur le recueil de Leipzig.
Absolument, oui. C'est un joli mot en allemand, Abblasen. Musikalische Arbeit, d'ailleurs, zum Abblasen. Donc, un travail musical pour
souffler.
Pour souffler, ouais. Mais ces recueils, ils ont été publiés aussi parce qu'on voulait aussi les vendre à tous gens intéressés qui jouaient des instruments à cordes. Donc, la musique publiée n'est pas forcément de la musique uniquement jouée pour des vents, mais aussi pour des cordes. Et ça s'est bien décrit très souvent aussi dans les pages introductives de chaque recueil. Parce qu'il y a l'aspect économique, il faut essayer de vendre le plus possible ces recueils.
Et puis alors, Johann Melchior César, je voulais vous demander des renseignements sur ce compositeur que vous indiquiez sur le programme mort en 1692 et dont la suite de danse publiée à Augsbourg en 1688 est tirée d'un recueil au joli titre aussi, Musikalischer Wend und Mut, qu'on peut traduire par le détourne tristesse, c'est un peu ça, Wend und Mut.
Oui, peut-être ouais. Il a pensé comme ça, je sais pas. Mais en tout cas, beaucoup de recueils de cette époque portent des titres qui nous paraissent un peu particuliers, un peu bizarres, mais aussi très jolis et intéressants d'ailleurs, très souvent comme Musikalische Arbeit zum Abblasen et aussi le nom de notre ensemble, Fluidimontes, c'est justement tiré d'un recueil d'un moine de Engelberg. Le recueil s'appelle « Fluidi Montes Angelo Montarum », donc les montagnes fluides autour de Engelberg.
Donc César publie un de ses ouvrages à la fin du XVIIe siècle et on sait quelque chose de lui ?
Oui,
Je vois là, dans les biographies, dans les notices des dictionnaires, souvent on a plusieurs noms. On connaît ces musiciens sous leur nom latinisé. Petzel, je vois que c'est marqué Petzelius, aussi Petzold, Betzel. L'orthographe n'était pas toujours très nette. Et César, c'est peut-être un Kaiser aussi, c'est ça ?
Oui, absolument. Apparemment, c'est un César ou Kaiser, Johann Melchior, qui est né en 1648, donc à la fin de la guerre de 30 ans, en Alsace. Mais plus tard, il partira d'Alsace et puis il va aussi, lui, à Augsbourg, où il a même aussi été actif à Breslau. Donc, on voit qu'il s'agit de la musique qui a été originairement composée pas du tout dans le contexte de la Suisse, mais de la musique qui a été composée dans un tout à fait un autre contexte, mais que les Suisses, soit des institutions, soit des personnes privées, soit des groupes de musique, comme des Collegia Musica, avaient justement acquis ces recueils musicaux de l'étranger. Et donc, il y a une espèce de style musical très international, donc de la musique de l'Italie qui arrive, de l'Autriche. Même, on a eu avec Benedikt Anton Aufschneider, qui a un nom tout à fait allemand et qui a toujours été actif en Allemagne, qui a composé dans le style français. Donc, c'est à cette période-là où la culture française commence à être très respecté partout en Europe.
Et la suite de danse, on a Louis XIV qui a son prestige européen.
Absolument, oui, avec ce qu'on appelle l'absolutisme et que les cours, aussi les cours en Allemagne, pour eux, c'est la toute dernière vogue, c'est la toute dernière mode. Donc, il fallait aussi avoir même des compositeurs de leur propre pays à composer dans ce nouveau style. Et même plus tard, Bach compose des ouvertures en forme de suite et tout ça.
Mais l'absence, justement, Christophe Riedo, de cours dans les villes suisses, est-ce qu'elle n'a pas justement un peu fait que la musique avait une place moins importante que dans des petites bourgades allemandes ou de France?
Certainement, c'est pour ça que la Suisse a aussi été négligée par l'historiographie musicale, parce que sur le premier plan, on ne voit pas tout de suite un grand roi, un grand noble qui a commissionné énormément de musique, qui a mené un grand orchestre. C'est pour ça que au tout début, on ne s'intéresse pas tout de suite à l'histoire de la musique de la Suisse. Mais maintenant, après 5 ans de recherche, par exemple, à Einsiedeln, on voit très bien que Einsiedeln, quand on arrive à Einsiedeln, on voit une très grande église construite autour de 1740 qui est immense et qui est l'abbé, il est aussi un prince abbé, il possède du terrain qui va du lac de Constance jusqu'au Tessin et qui est très riche. Et d'ailleurs, ces moines, ils ont envoyé un castrat qui n'était justement pas un moine. Ils l'ont envoyé pendant 2 années pour qu'ils étudient le chant à Milan, parce qu'il voulait avoir un très bon sopraniste plus tard dans le monastère. Donc, si vous voulez, Bach, il a composé ses cantates à Leipzig et il avait toujours eu des problèmes au niveau des voix des enfants, donc des soprani et des alti. Mais les monastères suisses, ils ont eu financièrement les possibilités d'acheter, plus ou moins, dire comme ça, il faut le dire comme ça, des castrats, donc des musiciens professionnels qui ont certainement chanté les solos. Et les étudiants de l'internat de Einsiedeln, comme chez Bach aussi, ont chanté dans le chœur. Mais les soli, ils ont été probablement chantés par des plus ou moins des professionnels. Et c'est des pages qu'on ne connaît pas jusqu'à maintenant, c'est des recherches assez récentes, que je trouve que c'est important que la Suisse, que nous, on le sache aussi, parce qu'on peut aussi être un peu fier de notre histoire musicale du passé. Et voilà, donc là aussi, on voit que les mécanismes de la musique, ils sont chez Vivaldi, à Einsiedeln ou à Leipzig chez Bach, ils sont exactement les mêmes. Vivaldi, il compose uniquement pour 10 voix de femmes, parce qu'il n'a pas eu des hommes. Donc, oui, aujourd'hui, on pense toujours que ça a été des magnifiques voix. Je pense que ça a été des très, très, très bonnes voix, parce que quand on voit un peu les plans, donc les heures dans ces internats, soit en Allemagne du Sud ou en Suisse, donc dans les monastères même, combien d'heures ils ont eu des cours de chant et combien de traités de chant ils se trouvent aujourd'hui encore à Einsiedeln. Et la musique, quand on voit aussi la musique, des fois elle est très virtuose, elle est difficile à jouer. Je veux dire, déjà si quelqu'un arrive à jouer ça, on voit tout de suite que c'est déjà un très bon niveau. S'il arrive à le jouer parfaitement, ou seulement, disons, aujourd'hui bien ou assez bien, ça, je ne peux pas juger, c'est très difficile à juger, mais déjà, quand on voit cette musique, par exemple, au XVIIIe siècle de Johann Christian Bach, des symphonies, tout ça, que lui avait composé à Milan, on voit déjà que le niveau doit être très haut, et c'est donc pas par hasard qu'on trouve à Einsiedeln, par exemple, si... exemplaire du traité de Léopold Mozart de son école de violon. Donc, je peux m'imaginer qu'il y a eu plusieurs étudiants, soit des moines, il y a eu des moines qui ont magnifiquement joué des instruments, parce que là aussi, on possède des très bons documents que les abbés, l'abbé de Einsiedeln, par exemple, il a un aspect qui était très important pour lui, c'était justement que le moine est bien éduqué dans la musique et que lui, il joue d'un instrument ou qu'il chante très bien. Autrement, plus ou moins, pour dire de telle manière, il n'avait pas intérêt de le faire entrer dans le monastère. Bon, là, il faut préciser qu'il s'agit des bénédictins et il y a d'autres ordres qui mettent moins de valeur à tout aspect musical de la liturgie, mais les bénédictins d'Einsiedeln étaient très forts là-dessus, et j'ai fait des recherches sur le XVIIIe siècle et j'ai vu qu'un abbé, Nikolaus Imfeld, dans toute sa période, il a, dans sa période comme abbé, il y a eu 26 moines qu'on trouve comme musiciens qui ont soit chanté ou joué dans l'orchestre. Donc là, on voit tout clairement que lui, il avait un grand intérêt de faire venir des moines qui sont musicalement très bien éduqués. Je dirais que c'est des musiciens professionnels, parce qu'il y joue chaque jour dans le monastère. Et voilà. Ça, c'est des photos assez récentes que j'ai prises à Saint-Gall. C'est les documents du Collegium Musicum de Saint-Gall. Et là, on voit de cet inventaire, on voit la musique, les partitions qui étaient en possession de justement de ce Collegia Musica. Donc si on veut reconstruire la musique de cet ensemble, on voit ici justement les partitions. Donc il y a du Michaeli Pretori,
Polyhymnia Exercit,
oui.
Un recueil de Pretorius.
Melchior Schramm. Il y a aussi des compositeurs un peu moins connus. Il y a Orlando Di Lasso. On peut même sauter à la prochaine page parce qu'on ne connaît pas vraiment les compositeurs. Mais ici, par exemple, on voit très bien que Bassus, Geigen oder Violen, zwei Tenor, dito, zwei Alt, ein Discant.
Donc, ça, c'est la constitution, c'est la distribution instrumentale. Alors. C'est un consort de 6 instruments. Ce sont des instruments dans l'inventaire ou bien c'est la formation des musiciens?
Ça, c'est les instruments qui étaient en possession de justement le Collegium Musicum. Et parfois, on voit d'où ils ont acheté les instruments. Par exemple, ils disent Oberbalm ou ils disent Waldshut. Alors, dans ce cas-là, pour nous, c'est très clair que c'était des instruments dans le style de la Allemannische Schule, puisque les luthiers ont été actifs justement dans ces lieux.
Et ça, c'est un cahier qui date du XVIIe siècle ou de quand?
1600 quelque chose, je ne me rappelle plus, 51.
Oui.
Et ce qui est très impressionnant, ces inventaires, ils existent assez régulièrement. Donc peut-être 10 ans plus tard, il y a un autre inventaire où on voit les parties acquières dans ces 10 ans. Donc on voit une espèce de développement, de changement dans la musique de ce Collegium Musicum. Et oui, on peut tout reconstruire en fait.
Et c'est des musiques seulement instrumentales là, ou bien il y a aussi des pages chantées?
Il y a énormément de musique aussi vocale, ouais. Et surtout dans les monastères, bien sûr, il y a surtout de la musique liturgique, donc de la musique chantée. Ça serait un grand pas dans le futur à faire parce que d'abord, notre formation existe comme formation instrumentale. Donc,
l'ensemble Fluidi Montes.
Oui, voilà. Et donc, dans le futur, il faudrait organiser.
Jouer avec des chanteurs.
Oui, exact.
Et donc, un Collegium Musicum comme celui de Saint-Gall au milieu du XVIIe siècle, c'est d'abord un ensemble d'instrumentistes ou bien c'est des musiciens qui jouent plutôt dans l'église avec des chanteurs?
Il y a les deux. C'est surtout des ensembles. On sait beaucoup sur les villes protestantes. C'est surtout les villes protestantes qui ont fait partie de recherches des musicologues, mais des recherches qui datent la fin du 19e siècle, donc ça fait très très longtemps. Et l'aspect religieux est toujours très présent, bien sûr, au XVIIe siècle. C'est un siècle où la religion a des influences sur chaque aspect de la vie quotidienne. Mais ce n'est pas de la musique qui s'est faite dans les églises. Parce que justement, en Suisse, avec Calvin et Zwingli, nous avons deux réformateurs qui étaient très sévères du côté pour la musique, qui voulaient justement pas de musique ou très très peu à l'église. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de la musique. Et ça qui est très drôle, parce que souvent on pense, comme il y a eu Zwingli et Calvin, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de vie musicale. Et ça, c'est absolument pas vrai. On voit justement que la vie musicale s'est déplacée à d'autres lieux. Et c'est pour ça que ces Collegia Musica se sont aussi fondés. Par exemple, il y a aussi beaucoup de musique de Hammerschmidt, des psaumes. Donc là, on voit très bien ce côté de la confession protestante.
Herzlich, 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 hab ich dich, hab ich dich, Herr, meine Stärke, mein Fels, Herr, mein Herz, Herr, meine Ruhe, Herr, mein Fels, meine Rettung, Herr, mein Gott, mein Hort auf dich.
Herr, mein Gott, 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 mein
Pour la musique instrumentale telle que celle que vous avez défrichée pour ce récital autour du consort de violon alémanique, ce sont des musiques plutôt pour amateurs ou ce sont aussi des, il y a tout de même une belle exigence virtuose?
Oui, c'est difficile à dire. Il y a certainement.
Si on prend le recueil de, enfin, c'est pas un recueil. Là, c'est une page manuscrite que vous avez jouée de Johann Andreas Benz, qui est précisément un musicien suisse, lui.
Oui, lui, c'est le seul vrai Suisse qu'on avait joué dans le programme. Il a été actif aussi à Saint-Gall. Sa musique, certainement, n'est pas de qualité esthétiquement très, très haute, mais il faut le défendre parce que c'est de la musique de danse. Et donc, la musique a un aspect fonctionnel. Et lui, peut-être, c'est un maître de danse ou que sais-je. Donc, son but, c'est d'écrire de la musique pour faire danser les gens. Et donc, si on juge sa musique à côté des sonates dans le style italien, c'est pas juste, parce que c'était justement pas son but. Son but, c'était d'écrire de la musique pour faire danser des gens. Qui sais-je ? Oui.
Et il y a une exigence tout de même de la part des instrumentistes que vous avez été. Et c'est tout de même une musique qu'il faut travailler.
Absolument, il faut la travailler. Même, peut-être on dit, oui, les exigences techniques à cette époque, au XVIIe siècle, au violon, ne sont pas immenses, c'est vrai, mais ça s'explique de tout le contexte historique, le violon, le XVIIe siècle est le siècle où la musique instrumentale commence à s'émanciper et qui l'écriture idiomatique des instruments à cordes comme le violon commencent seulement peu à peu à se développer, les doubles cordes, les arpèges. Chez Bibert, plutôt, on monte dans les positions très haut. Mais là, on voit aussi dans ce programme-là, on voit aussi que c'est pas forcément, ça je peux jusqu'à maintenant pas encore dire, mais c'est pas forcément de la musique qui a été jouée uniquement par des professionnels, par des gens qui ont gagné leur vie uniquement en jouant ça. Mais bon, ça c'est de nouveau des catégories tout à fait de notre époque, parce que même à Mozart, il a donné des concerts, il a composé, il a enseigné, donc le métier des musiciens n'était pas uniquement de soit de composer ou uniquement de jouer. Non, il a inclus justement tous les aspects, ou même copié de la musique. On gagne aussi de la musique en copiant la musique, parce qu'il n'y a pas eu des machines à photocopier. Et cette musique qu'on a jouée, donc, c'est aussi de la musique qui s'est trouvée aussi dans des bibliothèques musicales privées de quelques familles de la haute bourgeoisie de ville. Donc,
des amateurs, mais tout de même, vous le disiez tout à l'heure, qui devaient jouer tous les jours, qui se réunissaient tous les jours pour faire de la musique. C'était une activité quand même très fréquente.
Absolument, absolument. Donc la musique a un rôle tout à fait différent de celui qu'elle a aujourd'hui. Une personne bien éduquée d'un certain statut social devait pas seulement monter à cheval, mais il devait savoir danser, mais il devait aussi savoir jouer un instrument. Il était musicalement très bien éduqué, et justement les Collegia Musica se sont réunis même une fois par jour, sur plusieurs heures, donc il y a une régularité. C'est un rôle de la musique qui est complètement différent de celle qu'elle a aujourd'hui. Aujourd'hui, on écoute plutôt de la musique, mais c'est clair, à cette époque-là, il n'y a pas de machines qui reproduisent de la musique. Donc, soit on la fait soi-même, ou il n'y a pas de musique. Et la musique, c'est un aspect ethnologiquement très important pour l'être humain. Et donc, même s'il veut danser, il faut quelqu'un qui fasse de la musique pour faire danser.
Et donc c'est vraiment cette house musique que c'est recueilli. Et puis il y a aussi certains qui s'appellent table musique. On a beaucoup de musique de table, donc on écoutait cette musique pendant qu'on mangeait ou on la jouait soi-même.
Et dans les documents de la Collegia Musica, on voit aussi qu'il y a eu justement des grandes fêtes avec un buffet, tout ça, et qu'on a fait parallèlement de la musique, qu'on a joué de la musique. C'est effectivement ça, absolument, oui. Freu dich, du schönes Barn, wir können den Haber sein. Du bist mir lieber denn nicht, du tust mir meiner Alter recht. Bum, bei, bei, bum, ich freu mich dein, mit bum, bum, bum. Ich freu dich, tu dir bum, hinter dem Ofen und bum, bum, bum. Freu dich, du schönes Barn, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm.
Je rappelle que ce qu'on entend dans cette émission, dans cette série d'émissions, David Mestri, c'est ce que vous avez vécu, vous, du 22 au 29 août passé à Gruyère, dans le cadre de ce 8e atelier de musique ancienne, avec tout ce qu'il faut savoir pour construire et pour connaître ce violon baroque suisse.
Avec ce concert événement de Fluidi Montes à Gruyère le 29 août dernier, et un autre concert auquel participait Christophe Riedo, qui était mon invité aujourd'hui, avec l'ensemble Capriccio Basel et la Capella Murensis, c'était à Fribourg toujours, au Festival de Musique Sacrée 2008, un concert intitulé « Musique des monastères de Suisse », et on entend, si vous le voulez bien pour nous quitter, ce grand Miserere de Giovanni Sammartini, qui a été retrouvé donc en partition dans un de ces monastères dont nous parlait Christophe Riedo.
Christophe Riedo, oui, mais aussi Marie-Claude Cudry, pour la réalisation, vous, David Mestri, Isabelle Watson pour l'assistance à la production, Jean-Luc Rider pour la proposition, et là, ses œuvres de Sammartini. Musique en mémoire. C'est encore mieux l'après-midi, dès 14h sur Espace 2 désormais. C'est une émission qui se podcast, comme on dit, et qui se commande au 026 323 24 24. Vous écoutez Espace 2, il est 15h.